Chapitre 53. Le banquet célébrant le retour de Calvert et de Lars tourna à la foire bruyante, vulgaire et violente. Très vite, Bannon en eut la nausée. Maculé de sang et couvert de bleu après l'attaque des Selkas, sans parler des mauvais traitements reçus sur les galères, les nouveaux esclaves s'échinaient dans la cuisine du bastion. Débordés de travail et terrifiés, le vieil Emmett surveillait toutes sortes de plats, y compris une chèvre qui grésillait encore sur sa broche. Le chef de cuisine aboyait sans interruption des ordres qui cassaient les oreilles de tout le monde. De temps en temps, par bonheur, il marquait une pause pour donner quelques explications aux nouveaux.
« Toi, prends la chèvre rôtie. Derrière le trône, il y a de quoi la suspendre. Calvert découpera la viande lui-même. Avec un peu de chance, il ne la trouvera pas trop saignante. S'il daigne manger de la chèvre ce soir, je n'ai pas osé lui dire que le reste n'est pas encore prêt. Je l'ai vu dévorer des animaux vivants. S'il est dans ce genre d'humeur, ce sera terrible. J'aimerais tant avoir autre chose que du poisson et de la chèvre. »
Un des garçons de cuisine, un grand type morose avec une balafre sur la joue, saisit une extrémité de la broche tandis qu'un des nouveaux esclaves s'emparait de l'autre. Suivis par les gardes, ils s'éloignèrent avec leur fardeau. La chèvre expédiée, Emmett supervisa le départ des poissons qui venaient de finir de griller. Bannon fut chargé de porter un énorme saladier de poissons en gelée. Dès qu'il la sentit, l'odeur de vinaigre lui rappela celle des choux en saumure sur son île natale. Révulsé par le souvenir d'années noires, il tint le récipient le plus loin possible de son nez et emboîta le pas à la chèvre rôtie. Quand Emmett lui tendit une carafe de vin en étain, Lila le foudroya du regard.
« Je n'ai aucune envie de lécher les bottes de ces chiens. Moi non plus, mais mon envie de vivre est plus forte que ma révulsion. Si tu veux voir le jour se lever demain, tu devrais faire comme moi. Après le banquet, je vous expliquerai comment tenir une semaine, un mois, puis un an de plus. »
Voyant que les gardes étaient partis escorter la chèvre, Lila cracha ostensiblement dans la carafe. Choquée mais fascinée, les autres esclaves la regardèrent avec des yeux ronds.
« S'ils s'en aperçoivent, » couina Emmett, « les Norokaïs te découperont en morceaux et te feront frire. »
Juste avant de sortir, Bannon vit du coin de l'œil ce que faisait sa compagne. En soutien, il cracha lui aussi dans son saladier.
« Douce mère la mère, tous les moyens de combattre sont bons. »
Dans la salle de banquet, aux murs sombres et aux poutres noircies par la fumée, des têtes desséchées pendaient à des crochets. Des ennemis abattus par Calvert, sans doute. Tapant du poing sur les tables, les Norokaïs beuglaient pour avoir à manger et échangeaient des insultes. Dans cette atmosphère délétère, des femmes presque aussi laides que les hommes et tout aussi défigurées par les cicatrices cognaient sur leurs galants et prenaient des coups en retour. Toujours la conception si particulière de l'amour en vogue chez les Norokaïs. À la table d'honneur, Calvert siégeait sur un trône qui ressemblait à un instrument de torture. Comme des crocs, les implants osseux de ses épaules jaillissaient de son gilet en peau de requin. Le dos voûté, il broyait du noir, insensible aux éructations de ses invités. Les poings sur la table, le regard sombre, il fixait un siège bien plus petit et renversé pour que personne ne s'y asseye. La chaise de Crayeux, sans nul doute, placée comme de juste sur sa droite. Sur sa gauche, Atta paradait comme si elle était déjà la reine. Perdue dans son chagrin, Calvert semblait ne pas avoir conscience de sa présence. À la deuxième table d'honneur, Lars bombait le torse comme s'il était le dernier héros à la mode. Dès qu'il le vit, Bannon bouillonna de haine. Plus qu'à moitié saoul, l'ignoble capitaine ne parut pas le reconnaître. Calvert se redressa soudain et tapa du poing sur la table.
« Lars, je t'ai condamné à mort avant ton départ !»
Les conversations moururent en un clin d'œil. Tétanisé en plein roulement de mécanique, Lars posa sa chope et se tourna vers le roi.
« Tu m'as dit d'aller mourir au combat, mon roi. J'ai lancé raid après raid et tué de ma main une bonne centaine de miteux. Comme tu me l'as ordonné, je crèverai, mais pas avant d'en avoir éventré quelques centaines de plus. »
Les pillards saluèrent cette martiale déclaration qui ne sembla pas plaire au souverain.
« Tout ça n'efface pas ton échec, Arenda Surbay. Tu devras faire pénitence devant le dieu serpent pour t'être déshonoré face à des chiens pareils. »
Lars rougit de honte.
« Je sais, mon roi. » Et je les ferais payer. Si je n'avais pas eu besoin de vivre et de guerrier, je ne serais pas revenu. J'ai vu que de nouvelles galères mouillent dans nos eaux. Si tu veux que je dévaste la côte, confie-les-moi. »
Il reprit sa chope et la leva sous les cris enthousiastes des Norokaïs.
« Nous n'avons plus de navire, oui. Crayeux l'avait prédit.
Le roi baissa les yeux sur son assiette vide. Les porteurs de la chèvre accoururent et placèrent la broche sur ses supports. Un moment, une bonne odeur de viande grillée fit oublier la puanteur des guerriers crasseux et couverts d'immondices. Calvert fit la grimace. Bannon posa son saladier de poisson engelé devant Lars et s'abstint de tout commentaire. Le capitaine se pencha, inspira à fond et lâcha
« Ce sera parfait avec le plat suivant !»
Levant les yeux, il étudia Bannon comme s'il allait le reconnaître, mais il se contenta de marmonner
« Tu es très laid !»
Sur ces mots, Lars plongea une main dans la gelée et avec le poisson goba le crachat du jeune escrimeur. À la table d'honneur, on servait les poissons grillés. L'appétit en berne, Calvert ne daigna pas y jeter un coup d'œil. L'eau à la bouche, Atta lorgnait la chèvre rôtie. Comme tout le monde, elle attendait que le roi se serve en premier. Perdant patience, elle prit l'assiette de Calvert et se leva.
« Te servir est un plaisir, mon roi. Tu pourras me rendre l'appareil plus tard. »
Avec son couteau, la matrone coupa une grosse tranche dans le morceau de choix, le gigot, la laissa tomber sur l'assiette et alla poser celle-ci devant Calvert, puis elle alla se servir et commença à s'empiffrer. Sans entrain, le roi consentit à manger un peu.
« Bientôt, grogna-t-il, nous partirons pour la guerre. »
À son ton, c'était la seule chose qui l'intéressait encore en ce monde. Impossible à reconnaître dans son sac gris, Lila entra avec sa carafe de vin. À sa démarche confiante, on aurait pu croire qu'elle avait déjà flanqué une rouste à tous les Norukaï présents. Sans frémir, elle remplit le gobelet de Calvert. Distraitement, le roi le vida à moitié. Bien entendu, il n'accorda pas l'ombre d'un regard à la Morassite méconnaissable. Quand Lila se tourna pour servir Atta, visiblement à contre-cœur, le roi la poussa comme s'il chassait un vulgaire moustique. Du coup, la servante renversa une bonne moitié de la vinasse sur Atta. La reine très potentielle explosa. Comme une vipère qui se détend pour frapper, elle bondit sur ses pieds, renversant son assiette. En bonne Morassite, Lila réagit à la vitesse de l'éclair. Lâchant la carafe qui fit un boucan d'enfer en s'écrasant sur le sol, elle se mit en garde. Atta arma un poing énorme. Alarmée, Bannon bondit pour s'interposer, mais Lila n'avait pas besoin d'aide. Au vol, elle saisit le poignet de la Norukaï et bloqua tout simplement le coup. Ensuite, inexorablement, elle repoussa le bras de son adversaire et siffla entre ses dents.
« C'était un accident !»
Lila jeta un coup d'œil à Calvert qui n'avait même pas remarqué l'accrochage.
« Et je suis... « Désolé. »
Comme si ces mots lui arrachaient la gorge, la Morassite déglutit péniblement. Non sans effort, Atta dégagea sa main.
« Un accident ?»
éructa-t-elle. Sans crier gare, elle gifla Lila, qui vacilla sous le choc mais ne tomba pas, et s'interdit de riposter.
« Je suis une Morassite, »
lâcha-t-elle.
« Recevoir mes excuses, c'est déjà beaucoup. »
Calvert s'aperçut enfin qu'il se passait quelque chose. Se levant, il frappa Lila à la temple en voyant s'étaler sur le sol. Atta vint se camper au-dessus d'elle.
« Je te condamne à mort, mais comme Calvert avec Lars, je prendrai mon temps avant de faire exécuter la sentence. »« Tu seras la bienvenue, » siffla Lila.
Lestés de paniers de pain et de plateaux de poissons ou d'algues, Emmett et d'autres esclaves entrèrent dans la salle.
« Nouveau service !»
lança le vieil homme pour faire diversion.
« Il y a encore d'autres plats et une montagne de desserts. »
Sous le regard des pillards, alléchés par le menu, Emmett gagna la table d'honneur. Se penchant, il prit Lila par le bras.
« Relève-toi, voyons, du travail t'attend en cuisine. »
Il prit aussi Bannon par le bras et tira les deux jeunes gens vers la sortie.
« Vite, le roi Calvert déteste attendre. »
Sous le regard assassin d'Atta, le vieux chef de cuisine réussit à sauver la peau de ses deux nouveaux marmitons. Les jours suivants, alors que tous les esclaves faisaient profil bas, Atta s'acharna sur Lila. Un soir, elle la croisa dans un couloir, lui sauta dessus et la plaqua contre un mur.
« Allez, défends-toi, que je puisse te tuer !»
Bannon tenta de s'interposer.
« Arrêtez ça, nous faisons simplement notre travail !»« Le travail de cette chienne, c'est de crever !» « Calvert est à moi, ma fille. Je sais que tu le veux. »«
Je le veux mort, oui. Mais si je dois te tuer d'abord, ça ne me dérange pas. »«
Si tu égorges Atta, » souffla Bannon, « le roi t'étranglera de ses mains. »«
Tu rigoles ? Si je l'élimine, il se moquera de sa faiblesse. Alors, grosse truie, tu veux qu'on se batte? Donne-moi une arme et on verra bien qui survivra. »
Furieuse, la norokaille propulsa de nouveau Lila contre le mur.
« Tu n'auras rien, même pas le coup de grâce, pas encore !»
La norokaille poussa de nouveau la moracite, qui resta bien campée sur ses pieds et tira sur sa robe informe comme si rien ne s'était passé. Au maximum, Lila et Bannon travaillaient ensemble et Emmett les aidait en leur donnant des affectations communes. Hélas, ce manège n'avait pas pu durer très longtemps car les norokaïs n'étaient pas aveugles. Malgré tout, les deux jeunes gens se voyaient aussi souvent que possible et ils préparaient leur évasion. Enfin, ils essayaient parce que dans un bastion grouillant de pillards, ce n'était pas facile.
« Emmett connaît chaque recoin de la forteresse, » dit Bannon. « Il pourrait nous aider à fuir. »
Lila ne parut pas convaincue.
Après une si longue captivité, il a tout oublié de la liberté. Tout ce qui lui reste, c'est la peur de mourir. Moi, j'ai promis de te sauver et je trouverai un moyen.
Moi, j'ai juré de combattre à tes côtés. Tu m'as formé à affronter des ours et des panthères. Que sont quelques norokaïs comparés à ça?
Enfin, tu parles comme un gladiateur, mon gars.
Le lendemain, alors que Lila surveillait la cuisson d'un ragoût de poisson, Atta déboula dans la cuisine, le nez en l'air.
« C'est midi, il aura faim !»
Approchant du chaudron, elle huma la vapeur qui en montait.
« Quelque chose pue, mais ce n'est pas la nourriture, non, c'est la vermine qui s'en occupe !»
Saisissant une louche, Atta la plongea dans le ragoût, puis la porta à sa bouche, goûta du bout des lèvres et versa le reste sur l'épaule de Lila à l'endroit où le col de la robe grise dévoilait sa peau. La moracite tressaillit mais ne lâcha pas un cri ni un gémissement. Malgré la douleur, elle foudroya Atta des yeux. Emmett boitilla jusqu'aux deux adversaires et s'interposa.
« Atta, mon personnel! Calvert a dit 100 fois de ne pas tuer mes marmitons! »«
Ai-je promis de ne pas les amocher ?»
Très satisfaite d'elle, Atta regarda le bleu sur la joue de Lila, puis elle admira la très récente brûlure et sortit enfin de la cuisine. Bannon accourut et posa sur la lésion un chiffon imbibé d'eau fraîche. À ta partie, la moracite s'autorisa une grimace. Emmett voulut se défiler, mais Bannon lui barra le chemin.
« C'est pour ça que tu dois nous aider à fuir. Sinon, Atta finira par la tuer. »